Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe en 1953. Elle nous est rapportée par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui a exhumé ce reportage extrait des actualités françaises.
Comme chaque année depuis 2 ans, les timides se sont rués avec timidité au bal des timides qui, pour n'être pas encore reconnu d'utilité publique, n'en a pas moins à la fois sa valeur humanitaire et son élection d'une Miss Timidité. Le but de cette sensationnelle et curieuse trouvaille est sans doute d'abord de rapprocher des êtres qui s'adoreraient bientôt, s'ils osaient se le dire, mais surtout, au fond, de faire d'un timide breveté un être qui ne l'est plus, voire un audacieux, car Dieu seul sait où s'arrête un timide. Mais au fond, les timides seuls savent ce qu'ils valent. Et quand on voit ce qu'ils deviennent une fois sortis du bal des timides, guéris de leur réticence, libérés de leurs inhibitions, triomphants de leurs complexes, délivrés de leurs craintes, on ne peut que se dire « Ah, c'est timide !»
Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, 70 ans plus tard, nous faisons notre propre bal des timides. Elles sont deux et sans aller à un bal, elles ont réussi à surmonter leur peur de prendre la parole en public, leur timidité sociale, culturelle, professionnelle. La première pendant 3 minutes, la seconde pendant plus longtemps. Deux histoires racontées par Leïla Djitli et d'abord Mireille qui nous a écrit pour nous raconter ces 3 minutes qui ont compté.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Moi, Mireille, ouvrière et pas fière de l'être. Ce slogan-là me va très bien. Et je commence à en être fière alors que je ne suis pas fière d'être ouvrière, mais je suis fière de l'avoir dit. Alors, on est dans l'Est, en Lorraine, spécialement à Haut-Concours, un tout petit village entre Metz et Thionville. Et le 17 novembre, j'ai mis un gilet jaune, j'ai été à Metz, je me suis mis sous un rond-point. Attention pacifique, je voulais juste faire voir que toute ma vie j'étais transparente et il fallait qu'ils me regardent. Et avec un gilet jaune, j'ai découvert une journée magnifique, je me sentais bien, j'ai existé. Donc j'ai manifesté ce jour-là. Et après, ça a continué. Et au mois de janvier, j'ai suivi l'allocution de M. Macron, qui m'annonce qu'il va m'augmenter, moi comme petit salaire, de 100 euros. Moi, je suis un salaire bas, c'est-à-dire au SMIC, plus une paire de centimes, depuis 41 ans. Et le lendemain, je réécoute des informations, et les 100 euros se transforme du jour au lendemain en une allocation de 90 euros. Je me dis, bon, là, je retrouve la vie réelle, c'est bon, je remets les pieds sur terre. Je me suis renseignée et quand j'ai appris qu'il y avait une réunion citoyenne à Metz, je me suis dit, j'y vais, je vais écouter ce que les gens disent. Arrivée devant la mairie de Metz, qui est imposante, j'ai monté le grand escalier et je me suis sentie importante, citoyenne. Et je suis montée dans les pièces d'apparat au premier étage. J'ai analysé un peu et je me suis mise assise en retrait, le dernier rang, à un endroit que je pensais peu visible et où je pouvais voir tout le monde et écouter tout le monde. Pour regarder, plus que pour participer, je voulais les entendre, je voulais qu'ils m'expliquent. Je pense qu'on est à peu près 150 ou 200. D'après les interventions, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires, des personnes de la mairie de Metz, des personnes qui travaillaient dans l'éducation nationale, des avocats, des gens qui travaillent dans la justice. Je ne me suis pas reconnue dans les revendications des autres personnes. C'est qu'un ressenti. Hein. On ne devait pas être nombreux à ne pas... Pas avoir de diplôme. Moi, je le vois comme ça. Pour clarifier, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de ma catégorie sociale. La première demi-heure, j'écoute parce que j'analyse, je me dis, je suis là pour écouter. La deuxième demi-heure, je pense que j'étais plus dans... C'était plus interactif, donc j'écoutais, je comprenais ce que disaient les gens, c'était très intéressant. Au bout d'une heure, une heure et demie, ça commençait à... Je commençais à avoir envie de dire à ces gens, et moi j'existe. Et... Je me suis levée, j'ai demandé le micro. On m'a passé le micro et là je me suis dit tu peux plus faire marche arrière.
Une intervention ? Par ici.
Bonsoir Mireille. Alors c'est la première fois que je parle devant quelqu'un, je ne sais pas si je vais y arriver. Pour moi c'est très difficile de parler en public, c'est très difficile de parler tout court. Parce que dans mon travail on ne parle pas. Jusqu'au bout, je me suis posé la question, est-ce que je vais le faire ou est-ce que je ne vais pas le faire? Est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne peux pas le faire? Alors j'ai attendu une heure et demie, deux heures, parce que des gens commençaient à se lever. Et le fait qu'il y a des gens qui partaient un peu avant et que la salle soit un peu moins peuplée m'a permis de me lever et de dire, moi, Mireille, ouvrière et pas fière de l'être. Alors je ne suis pas comme vous, moi je suis ouvrière. Pas fière de l'être. Mon père me disait, il n'y a pas de honte à faire n'importe quoi, enfin, il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas honte à travailler en usine. Si, si, mais il y a une honte de voir comment on est traité en usine. Je n'ai jamais fait d'études, c'est la honte de ma vie. À 45 ans, je me suis dit, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais bête, et on me le dit en face, et puis on a été habitué comme ça au travail. À 45 ans, je me suis dit, Mireille, fais ce que tu n'as jamais fait. Essaye de prouver que tu n'es pas plus bête qu'une autre. Et au bout d'une heure et demie, quand je prends la parole, ça me donne une impression de... Je prends de la couleur, j'existe, je ne suis plus transparente. Même si je dis quelque chose qui ne leur convient pas, j'assume. Je suis moi, que ça plaise ou ça ne plaise pas. Et c'est tellement rare dans ma vie qu'à la fin, c'est... Je suis en couleur, j'existe. Mon plus beau mot, c'est « j'existe ». Ce qui a été tellement rare dans ma vie professionnelle. À 17 ans, j'ai trouvé un emploi comme ouvrière, c'est dans le décolletage. Ça consiste à prendre des pièces métalliques et les usiner. Alors il y a de l'alésage, du molletage, on peut travailler sur des commandes numériques, sur des presses, bref, on fait des pièces pour l'automobile, pour la métallurgie. Alors on travaille sur des machines-outils, dans l'huile, dans les copeaux, dans le froid, dans la sciure, dans les courants d'air. Et c'est pas le fait d'ouvrière qui me fait honte, c'est la manière dont on nous traite. J'ai connu des époques où, quand on venait chercher notre travail, le chef nous insultait. Et c'est le fait de travailler de nombreuses années là-dedans, on s'habitue, on trouve ça normal. C'est très rare qu'on nous appelait par notre prénom ou par notre nom. On venait, on nous disait, vous, vous faites ça, vous, vous faites ça. On était surveillés, très surveillés. Je ne pense pas mentir en disant que je n'ai jamais été une demi-heure sans rien faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On travaillait 8 heures, avec un quart d'heure de pause. Et à la sonnerie, il fallait déjà être devant sa machine. On travaillait, on avait des gants. On travaillait dans l'huile, dans des décopeaux. Donc les gants souvent étaient percés. Mais comme on consommait trop de gants, on remettait un deuxième gant troué sur le premier gant pour essayer d'éviter l'huile qui rentre dans les gants. Ben ça, moi, je considère que c'est pas logique, c'est pas juste. On travaillait dans un hangar. Donc, quand il pleuvait, le hangar, il avait souvent des fuites. Donc, mon emplacement où je travaillais devant ma machine, où je ne pouvais pas bouger de 50 cm puisque l'emplacement était fixe, il y avait une gouttière. Et je vais chercher mon chef et je lui dis... L'eau coule du plafond, elle me coule sur moi. Comment je fais pour travailler? Il n'a pas été effronté, il m'a juste dit « Vous ne voulez pas que je vous tienne un parapluie quand même ?» Donc on reste. Les machines-outils, on travaillait, j'avais un bleu de travail, mais sur certaines machines, il n'y avait pas de protection. Donc on était mouillés d'huile, mais jusque les sous-vêtements, on était complètement mouillés. Mais ça gênait pas. Jamais on serait venu à se rebeller, dire c'est pas logique. On travaillait comme ça. Il n'y a pas de protection. On était majoritairement des ouvrières. Et la voie hiérarchique était des hommes. On avait un quota de pièces à faire. 666 pièces heure, en sachant que je prenais la pièce dans un bac avec la main droite, je le mettais dans la machine-outil, je le récupérais avec la main gauche. Et pour armer la machine, pour démarrer la machine, je tapais avec une pédale. Donc imaginez 668 fois ça multiplié par 8 heures. Pour moi, c'est un travail, mais on peut pas, celui qui trouve son bonheur en faisant ça toute sa vie, je l'envie parce qu'il est heureux au travail alors. Je pense que si on réfléchit en usine, on est mort. La seule chose qui compte, c'est il faut avoir son compte pour ne pas avoir de problème. J'ai pris le micro et je tremblais, je bégayais. J'ai été à l'université, j'ai dit je veux savoir si je peux passer un examen, passer un bac ou passer quelque chose. Bon, on fait un test. Je passe un test, je le réussis. J'ai demandé à mon employeur de pouvoir m'aménager des journées parce que évidemment dans le privé, on n'est rien, on finit rien. J'ai même pas eu une demi-journée, une demi-heure de changement d'horaire pour m'aider. Je sortais du boulot, j'allais à l'université, je bûchais. On m'a dit, vous savez faire une dissertation ? Non, je ne sais pas ce que c'est qu'une dissertation. Moi, je suis restée à la rédaction. En un an, j'ai bossé mon bac, enfin, le DAEU, et je l'ai eu. Les mots étaient difficiles à trouver. J'ai parlé avec mon vocabulaire. J'ai parlé avec mon cœur, avec mon ressenti et mon humiliation. Il fallait que je le dise, que je dise qui je suis, ce que je voulais et pourquoi j'avais mal. Après, j'ai dit, quand on nous demande la participation à l'impôt, moi je suis désolée, j'ai plus envie. Je suis payée au SMIC depuis 40 ans, on me dit que je suis rien. Grassement, ils nous disent, on va vous augmenter de 90 euros. C'est magnifique, c'est le nirvana pour moi. Mon mari gagne 2 centimes de plus que le SMIC, j'ai pas le droit. Allocation, je ne sais pas comment ça s'écrit, j'en ai jamais eu. J'ai le droit de payer, mais j'ai jamais rien eu au retour et je ne dis merci à personne.
Merci pour ce témoignage. Une contribution très claire.
Je finis ma prise de parole en répétant, en insistant, je ne dis merci à personne. Et je le maintiens encore aujourd'hui. L'État ne m'a pas aidé, l'éducation ne m'a pas aidé, mon employeur ne m'a pas aidé. Je ne dis merci à personne pour ce que je suis, parce que je l'ai fait toute seule. C'est pas parce qu'on est ouvrier qu'on devrait être condamné à avoir toujours la même vie, qu'on n'a pas le droit, le droit, parce que moi je pense qu'on devrait même avoir le devoir de pouvoir progresser toute notre vie, qu'on ne doit pas s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Et je pense que en nous mettant dans une bulle, dans une cloche comme ça, il faut pas pleurer en s'apercevant que les gens ne se posent plus de questions, croient à n'importe quoi. On nous abrutit devant la télé et sans études, on n'a pas de moyens de comprendre. Le dernier qui a parlé, il a raison. Prendre la parole en public, surtout pour exposer ma vie, mes échecs, mon ressentiment, ma honte, mon désespoir, c'était quelque chose d'inimaginable il y a une paire d'années. Le fait d'avoir repris des études, le fait de savoir, plus de penser, mais de savoir que je suis capable, ça donne des ailes. Le fait de parler en public, même si la voix elle a des trémolos, même si le vocabulaire n'est pas trop sûr, le fait de parler, ça fait un bien fou. Ça fait mal et ça fait du bien en même temps. Même s'il y a eu quelques larmes, même s'il y a eu quelques mots qui n'étaient pas justes, j'ai été jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Et j'ai eu une surprise magnifique. À la fin de mon intervention, j'étais paniquée, je me suis remise assise et puis il fallait que je récupère de mon émotion. et des gens m'ont applaudi et m'ont félicité. Et là, je me suis dit, ben, rien que pour ça, ça valait le coup. Je n'ai pas entendu une parole pendant tout mon allocution. Je suis très fière. Les mots n'étaient pas toujours à leur place, mais je suis très fière de l'avoir fait.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Aïssatou, j'ai 34 ans. J'ai un poste à responsabilité, chef de projet transport d'une grande entreprise en région parisienne. Moi, j'ai vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 20 ans, à Dakar, à Guédiaouaye. Et après, je suis venue ici. Et durant l'enfance, quand je marchais dans la rue ou autre, des fois, s'il y avait du monde, je commençais un petit peu à trembler des pieds. Je n'osais pas passer devant eux, en fait. Donc, moi, j'étais plus repliée sur moi-même. Je préférais me cacher. Et puis, aussi, à l'école, j'étais dans mon petit coin, je participais un peu, mais pas aller devant le monde, en fait, devant m'exposer devant eux. J'ai fait des études jusqu'au master et j'ai pas arrêté, ça m'a pas freiné pour faire mes études, mais je redoutais le passage à l'action, d'aller faire des discours en public. J'ai été encouragée par mes parents, mes proches qui voulaient que ma réussite. Et arrivé là, je me disais, mais j'allais aussi les décevoir. J'ai raté beaucoup de postes comme ça parce que je me dis, mais pour ce poste-là, je vais le prendre, sachant que derrière, il va falloir faire des présentations. Oh là là, non, je vais pas y passer, donc je vais me retenir. Je vais aller chercher un autre poste où il va falloir parler moins. J'avais beaucoup de préjugés sur moi-même parce que j'imagine ce que les autres eux-mêmes vont aller penser de moi. Le fait de se dire, oh là là, est-ce que ce que je vais dire, ça va les intéresser? C'est peut-être que ça n'intéresse que moi, en quelque sorte. C'est tout ça, en fait, qui se met dans ma tête et qui me freine au moment de passer à l'action. Et après, on s'y habitue, après, ça devient naturel. Et après, on s'est dit, en fait, on est fait comme ça. Et au niveau professionnel, j'arrivais même plus à m'exprimer aussi. Au moment des réunions, les gens, ils donnent leur avis. Moi, j'avais mes avis. Comme je les donnais pas, en fait, j'existais pas vraiment, entre guillemets. Donc, ça fait qu'il y a d'autres qui me volaient la vedette. Et il y avait des réunions où il y avait beaucoup de personnalités. On m'invitait pas à ces réunions parce que je ne montrais pas l'assurance pour les rassurer que devant ces personnes-là, moi, je vais oser convaincre. Alors que sur le papier, j'arrivais à convaincre. Comment je l'explique, c'est... Je vais dire en fait ça un petit peu rapport avec l'éducation. J'avais mes parents qui me disaient en étant enfant, on ne doit pas parler devant les adultes. S'il y a des invités, allez jouer. Parce que quand on est une fille déjà, on m'a surtout dit que faut baisser les yeux quand il y a des grandes personnes. Faut que tu essaies de parler pas très fort pour pas se faire remarquer trop. Et puis, on nous dit que faut vraiment essayer de se faire discret pour pas être la cible de jalousie. Donc, quand on est une fille, qu'on nous voit un petit peu trop s'exhiber, vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a plusieurs interprétations. C'est une fille de mauvaise éducation. On va vous jeter des sorts et autres, en fait. Tout ça font que les parents essayent de nous préserver pour qu'on puisse être aussi discret possible. Et les croyances qui m'ont été transmises dès le plus jeune âge, ça m'a bloqué sur beaucoup de choses. Quand j'avais 11 ans, j'avais des personnes de plan international qui sont venues à mon école. Ils sont venus, ils ont fait des sélections, des jeunes filles qui voulaient faire un petit peu de théâtre. J'étais partante parce que j'aimais ça. Quand ils m'ont choisie, je me souviens, mon père est venu me voir. Il m'a dit non, faut vraiment arrêter et faut pas vraiment pas y aller. En fait, j'ai toujours cette énergie-là, en fait, d'aller véhiculer des choses. Mais après, c'est le blocage d'aller l'exprimer devant des gens. Mais cette énergie, ça s'est jamais éteint. Et là, je me dis, non, il faut faire quelque chose. Je me suis lancé un défi et puis je me suis dit, ok, je passe à l'action. Et j'ai commencé à regarder sur Internet des vidéos. J'ai découvert aussi des ateliers. Et le coach, il m'a vraiment fait découvrir d'autres choses que moi-même, j'avais pas détecté, en fait. C'est le fait que quand j'entendais ma voix, j'avais même peur de ma voix, en fait, parce que on reconnaît pas sa voix. Il m'a dit, vas-y, tu parles devant d'une dizaine de personnes, hein. Je commençais à parler avec, il me dit, élève la voix. J'ai dit, non, en fait, c'est mon temps maximal. Il m'a dit, d'accord. Il a posé un casque, il a mis la musique, il m'a dit, parle. Sans te soucier de la musique. J'ai commencé à parler fort et j'étais plus à l'aise. Il a enlevé le casque, il m'a dit reparle et j'ai baissé la voix. Quand on veut se faire discret, souvent on a l'habitude de parler très bas. Et ça marche pas quand on est face à un public où il y a une trentaine de personnes. Si on se met à parler très très bas, les gens ils vont prendre leur smartphone, ils vont plus s'intéresser à mon discours. Donc, je me suis dit, maintenant, je vais oser. Maintenant, je vais assumer. La première prise de parole que j'ai vraiment réussi, c'était quand j'ai fait une prise de parole devant 38 personnes. Dans une association qui est mise pour la prise de parole en public, et c'était il y a un an, je pense, et j'avais préparé mon discours, et là, vraiment, c'était un défi que je m'étais lancé, que j'allais le réussir. Donc, je suis arrivée sur place, et j'ai dit « Bonjour tout le monde !» J'ai ouvert, avec le gestuel qu'il faut, avec la voix qui porte, et j'ai commencé à faire des pauses pour parler, ce que je ne faisais pas avant. Et au début, il y avait un petit peu de trac, mais ça n'a pas duré une minute, en fait. Et puis, le trac, ça a baissé, et j'ai commencé vraiment à me libérer. Et puis, je regardais sur les yeux des personnes qui étaient en face de moi, que mon discours, ça les passionnait. Alors, je leur ai raconté la première fois quand je suis arrivée à l'aéroport, je ne savais pas où est-ce que j'allais. J'avais un bout de papier, donc ça fait rire tout le monde, et j'étais perdue, et que vraiment la culture au Sénégal, en France, c'est pas pareil, et comment j'ai ressenti jusque-là, en fait, les obstacles que j'avais franchis, et je leur racontais aussi le fait que le français, à Dakar, en fait, je le parlais qu'à l'école, et arrivé sur place, je devais le parler tous les jours, et que ça devenait très très lourd, et je me suis rappelée, même une fois, j'ai parlé avec une amie. Je commençais à lui parler en Wolof sans m'en rendre compte. Et elle s'est retournée. Elle me dit, mais Aïssato, je comprends rien. Et bon, ça a fait rire tout le monde aussi. Et donc, j'ai fait ma prise de parole. Et je l'avais vraiment réussi. Je l'ai senti parce qu'on m'a même félicité. Et c'était une première quand je suis arrivée à la maison. Mais j'ai dormi à fond. J'ai dormi à fond parce que je me disais, ça faisait des années où j'arrivais pas à faire ça. Et vraiment, c'était extraordinaire pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, je peux le faire maintenant. Mmh. J'ai fait des études jusqu'en master. Après, c'est pas pour être assistante. C'est pour véhiculer aussi tout le savoir que j'ai en moi. Et puis, la motivation et la maîtrise de mon travail et de mon domaine qui me passionne. Maintenant, toutes les semaines, je fais des réunions. Et puis, je forme d'autres personnes qui sont dans d'autres services. Je me sens comme un leader dans mon travail, comme un leader. Et puis, je donne des connaissances à d'autres personnes qui, après, me remercient pour ça. Et moi, je suis fière quand je rentre à la maison. Et ce n'était pas le cas avant. J'avais beaucoup de frustration. Maintenant, quand j'arrive devant des personnes, ils savent que maintenant, c'est moi. Je me reconnais en tant que je suis. Et puis, je suis heureuse. Je ne suis plus dans l'ombre. On me voit maintenant. Voilà. Je suis une femme, et puis je suis cadre, et je suis fière de l'être.
C'était 3 minutes qui comptent, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Yaël Mandelbaum, Élise Combe. Merci à Mireille, à Issatou et à la Spin Company. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.